ce que je dis là. Voilà. Et donc, lors de la préparation de cette conférence, j'ai donc identifié les deux documents, et même trois, puisque j'en ai trouvé un autre, c'est le rapport Franck, m'ont paru fort intéressants, que je ne connaissais pas. Évidemment, quand on prépare une conférence, on découvre qu'on ne sait rien, et c'est en le préparant qu'on apprend à mieux connaître le sujet. Et donc, qui m'ont paru intéressants, puisque le premier document, c'est celui de Robert Oppenheimer, qui est le discours qu'il a prononcé lors de son pot de départ de Los Alamos au mois de novembre 1945, et qui interroge sur l'éthique du scientifique, hein, pour faire simple. Hein. Et le deuxième document, c'est le document qui a été publié dans Harper Magazine en février 1947, qui était rédigé, mais sur commande bien sûr, de Truman, rédigé par Monsieur Stimson, Henry Stimson, qui était au moment de la guerre le secrétaire d'État à la guerre, qui a donc participé aux décisions, entre autres, de bombarder le Japon. Et il explique d'une façon très détaillée tout le processus qui a conduit à cette décision, qui a été finalement très complexe, et il explique la raison pour laquelle la décision qui a correspondu à l'événement, a été prise. Il fait une petite allusion, dans un petit paragraphe, à l'existence d'une... Il y a eu une pétition, mais d'un rapport, le rapport Franck, qui date du mois de juin 1945, et qui était l'issue d'un groupe de scientifiques qui était à Chicago, dans le MATLAB, qui disait, c'est pas bien, on avait fait la bombe pour détruire l'Allemagne, maintenant on a vaincu l'Allemagne, on sait que la bombe n'avait toujours pas explosé, et on sait que ça va être terrible, et donc il vaut mieux le garder et susciter un système international de contrôle des armes nucléaires. Je résume très rapidement. Donc le rapport Franck que j'ai retrouvé après, donc je vous ai donné que le résumé final, parce qu'il fait aussi 10 pages, c'est un peu laborieux. Alors à cette occasion-là, je voudrais remercier très chaleureusement deux personnes qui sont dans l'assistante, monsieur et madame de Bettigny, qui sont ici, parce que j'avais un petit problème avec ces documents, c'est que c'était des documents en anglais. Alors je sais que vous parlez tous l'anglais, vous le lisez tous d'une façon très fluente, comme on dit en français, mais j'ai senti une petite difficulté. Et donc, tout à fait fortuitement, Madame de Bettigny a réadhéré à l'UTB cette année, et on s'est trouvé dans le bureau à discuter comme ça de choses et d'autres, et puis pouf, le déclic, la rencontre, le signe noir, voilà. Hein. Et Madame de Bettigny me dit, ben moi, mon métier, c'était d'être traductrice de documents techniques. Ah bon ? C'est intéressant, ça. Alors, j'ai dit, tiens, au fait, j'ai un document, là, est-ce que ça vous intéresse ? Alors, envoyez-le-moi, ben oui. Et donc, je lui envoie le document Oppenheimer. Mais je vais pas plus loin. Et 15 jours après, elle m'apporte la traduction impeccable en français. Je la remercie tant que faire se peut. Hein. Et mais il n'y avait qu'un document traduit. Alors, bon, j'en reste là, machin. Et puis, elle dit comme ça, très gentiment, me l'apportant, écoutez, on va vous traduire le deuxième document, mais je vais confier ça à mon mari qui était professeur d'histoire, et il écrit beaucoup mieux le français que moi, et donc c'est un travail commun, du travail du couple de Bettigny, et on le remercie beaucoup, et on va même lui donner un copyright, puisque j'ai, malgré 6 mois de recherche sur internet, j'ai pas trouvé de version française de ces documents. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on va en faire de la publicité, voilà, donc on les applaudit. Un an, je passe. Voilà.
Tu l'as fermé.
Mais c'est toi qui fais des bêtises.
Non, il est fermé.
Ah bon. Bien, donc, où en sommes-nous aujourd'hui ? Bien, j'ai fait le décompte, si je ne me suis pas trompé. 73 ans après le bombardement du Japon, la bombe n'a toujours pas été utilisée pour des raisons militaires, dans un conflit militaire. On en a fait péter beaucoup pour des raisons expérimentales. On pourra en discuter. Et donc, ce que je vous propose, la formule de la conférence débat, c'est qu'il n'y a pas de conférence, il n'y a qu'un débat. Et donc, on fait des questions. Alors, pour que ça ne parte pas dans tous les sens, j'ai essayé d'isoler des thématiques. Donc, je vais me remettre au piano. Et j'avais identifié des thématiques un petit peu générales. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prend la première, par exemple. Donc, je la lis. Rôle du savant dans l'identification et la promotion des connaissances scientifiques susceptibles d'être utilisées dans des buts guerriers, offensifs, défensifs ou dissuasifs. Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui souhaitent poser des questions ? J'ai oublié quand même quelque chose de très important. Je l'ai peut-être déjà dit, je ne me souviens plus. Nous avons le privilège immense d'avoir la présence de M. François Bougot et de Jean-Marie Fontaine, qui sont le directeur et directeur adjoint du centre du CEA de Valduc, qui, comme chacun le sait, participe au développement de l'arme nucléaire. Voilà. Donc, c'est les deux messieurs qui sont premier rang. Pour ceux qui ne les connaissent pas, celui, levez le doigt. Voilà. Voilà. Donc, merci François d'être venu, ça nous fait plaisir. En plus, c'est l'occasion de se revoir. Et donc, comme on va être invité à la prochaine réunion à Valduc, comme d'habitude, ben, on reparlera de tout ça. Voilà. Bien. Allez-y. Qui veut tirer le premier ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Donc, vous comprenez l'essence de la thématique, c'est, je vais prendre un exemple historique pour amorcer un petit peu la pompe, je vais prendre Léonard de Vinci, qu'on peut déjà considérer comme un scientifique. Léonard de Vinci, toute sa carrière, sa première carrière, c'était d'inventer des machines de guerre pour ses chefs dans les guerres picrocholines qui existaient dans la Toscane à l'époque florentine, si vous voulez. Donc, lui, il ne se posait pas de questions métaphysiques sur l'utilisation guerrière de ses idées inventives. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions sur ce thème-là ?
Einstein, quel était son rôle dans l'université ?
Vas-y, réponds. Alors, tu réponds.
Non, c'est le projet Manhattan, ça, c'est toi qui réponds.
Ah, c'est pas ça.
Ça, bon, projet oui, bon, alors, je veux bien répondre à la question.
Moi, je suis sur l'éthique du scientifique.
Voilà. Donc, Einstein, comment il a... Je fais un petit rappel de ce que j'ai raconté. Donc, Einstein, c'était le père de la physique moderne du XXe siècle. Et il a eu comme élève, entre autres, Léo Szilard Wigner. Et puis, le troisième, c'est Teller, Edward Teller, qui était à ce moment-là aux États-Unis. Alors, celui qui a eu l'idée d'approcher Einstein, c'est Léo Szilard. Et tous les trois étaient en croix, et il a dit, avec votre aura, votre audience, il faut absolument que vous préveniez les pouvoirs politiques américains qu'il y a une possibilité de faire une bombe absolument terrible, et il faut que les États-Unis s'intéressent à la question. Alors, contrairement à ce qu'on dit un peu dans les revues à toute vitesse, c'est-à-dire on fait ça sur le coin d'une table et puis on envoie la lettre à Monsieur Roosevelt, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Il y a eu au moins une vingtaine de versions de la lettre, des longues, des moyennes, des courtes, et ça a été trituré dans tous les sens, et Einstein a fini par signer une lettre. Il a fallu 4 mois après pour que la lettre arrive à la connaissance de Roosevelt, et ça a été donné de la main à la main par un gars qui s'appelait Strauss, qui est devenu après le chef de l'équivalent du CEA américain. Qu'est-ce qu'a dit Roosevelt de ce qu'on en sait ? Il a dit, on fait un comité pour réfléchir, et puis après on passe au sujet suivant. Et donc le comité, il a fallu 2 ans de péripéties diverses et variées, mais ça c'est la conférence, pour que la pompe s'amorce et que le processus démarre. Bon, voilà. Voilà, le rôle d'Einstein, c'est un rôle, j'allais dire, médiatique. C'est-à-dire l'aura du grand scientifique en disant si c'est M. Léo Szilard qui écrit à M. Roosevelt, ça n'arrivera jamais. Si c'est M. Einstein qui dit exactement la même chose, ça a un impact tout à fait significatif. Voilà. Comment ? Non, il a été contre après. Mais disons, sur le coup, il n'était pas con. Il a signé la lettre sans... je ne veux pas dire sans état d'âme, mais enfin, il a signé la lettre parce que ça lui paraissait tout à fait pertinent avec l'état des connaissances telles qu'elles existaient au moment où il l'a signé, bien sûr.
C'est ça qui a emporté le morceau.
Voilà. Ça a été le premier verrou qui a sauté, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... On peut glisser tout de suite sur l'éthique du scientifique,
oui,
peut-être.
Que...
Alors, vas-y. Bon, je sens que tu pierres
d'impatience. L'éthique du scientifique, effectivement... donc, on en a parlé tout à l'heure. Bon, moi vous me connaissez parce que je suis venu plusieurs fois ici. Donc maintenant, je suis professeur honoraire du Conservatoire des arts et métiers, mais j'étais donc professeur titulaire de chaire. Et pendant 25 ans, j'ai dirigé donc en fait le diplôme en sciences et technologies nucléaires du CNAM. Et j'ai créé un laboratoire de recherche. Et c'est vrai que quand on lit le papier que vous avez eu, là, le papier d'Oppenheimer, on se retrouve, quoi. C'est-à-dire que vous avez des tas d'états d'âme là-dedans dans lesquels, évidemment, le scientifique se retrouve. Parce que il y a le... Alors, on pourra discuter plus tard peut-être de la démarche qui était sur la bombe, effectivement, quelle pouvait être sa puissance, pourquoi les Américains se sont précipités, avec d'ailleurs énormément de savants allemands qui avaient quitté l'Allemagne et qui étaient venus aux États-Unis et qui voulaient prendre une revanche, en fait, sur Hitler et l'État nazi. On pourrait discuter de ça, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le côté... D'abord, comme il dit, si vous êtes un savant... Eh bien, vous croyez qu'il est bon de découvrir comment le monde fonctionne. C'est-à-dire que y a vraiment, et on l'a vu tout à l'heure aussi avec l'amiral Koldefis, c'est-à-dire qu'il y a les scientifiques et les techniciens d'un côté, et les ingénieurs, et puis vous avez le monde politique. Et le monde politique, c'est lui qui décide, mais le scientifique, il est là à côté, il a des états d'âme. Oppenheimer décrit très bien, d'ailleurs, pourquoi les scientifiques sont un peu contre le secret, parce que là, tout de suite, évidemment... les politiques ont dit tout ça va être top secret. Or, pour le scientifique, lui, il travaille pour apporter la connaissance au monde. Hein. Je vous rappelle que les Curie, à mon avis, c'est pas s'ils ont fait de mieux, mais c'est tout à fait défendable. Ils avaient dit, nous ne prendrons pas de brevet pour la France parce que il faut que ce que nous trouvons bénéficie à tout le monde. Alors pourquoi je dis... Moi j'ai un portefeuille de 140 brevets, donc moi j'ai fait le contraire. J'étais le cinquième à succéder dans la chaire de Marie Curie, mais fort de cette expérience, j'ai fait le contraire. Pourquoi ? Parce que les Américains, on a parlé d'Américains tout à l'heure, les Américains ont pris les brevets. C'est-à-dire que en fait, les Français ont dû racheter, par exemple, le radium aux Américains, parce que les Américains ont pris le brevet. Or, c'est Marie Curie qui avait découvert comment il fallait faire, comment il fallait isoler, etc., toutes ces méthodes. Et donc, si on avait, après tout, si on avait breveté, d'abord, c'est pas l'écurie qui se serait enrichie, mais c'est l'État français, puisque quand on travaille pour l'État, évidemment, on n'est pas propriétaire. Moi, je suis pas propriétaire de mes brevets. Ceux qui sont propriétaires sont ceux qui ont financé les recherches qu'on a fait dans mon laboratoire. Mais c'est vrai qu'on est... Cette histoire de secret, c'est un peu contre, en gros, l'état d'esprit du chercheur, quoi. Le chercheur, il essaye de trouver, hein, comme on dit, les chercheurs qui trouvent, on en cherche, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais bon, il essaye de trouver, et il essaye de trouver en disant, je vais améliorer la connaissance, globalement, hein, c'est ça, avec un grand C, et puis, je veux que cette connaissance profite au plus grand nombre. Hein. Et, alors après, il peut se poser des questions, effectivement, de savoir quel usage on va faire. C'est-à-dire que là, on bascule du côté politique. Hein. C'est-à-dire que on peut se dire, voilà, je vais découvrir quelque chose. Je vais découvrir le fil à couper le beurre. Bon, ça va couper le beurre, mais s'il fait assez long, on va pouvoir étrangler quelqu'un avec. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue de développer mon truc ou est-ce qu'au contraire, je l'enterre ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes un peu coincé, parce que si vous êtes en train de travailler dans un domaine donné, en train de chercher quelque chose, vous n'êtes pas le seul. Et dans le monde, vous avez tas d'équipes qui cherchent aussi un peu dans les mêmes domaines, et c'est le premier qui trouve. Bon. Donc, ça veut dire que même si vous désiriez arrêter ce que vous êtes en train de faire comme recherche en disant « Oh là là, l'homme pourrait l'utiliser à des fins néfastes, etc. », vous dites « Oui, mais bon, voilà, en même temps, il y a un Chinois, il y a un Indien, il y a un Russe, il y a un Américain, il y a un Argentin, etc., un Italien qui travaille là-dessus, dans le même domaine, et est-ce qu'eux, ils ont les mêmes états d'âme que moi ?» Ça m'est arrivé, hein, sur du tritium, à une époque, on pensait au labo qu'on avait trouvé un moyen de produire du tritium relativement facilement et tout, et je peux vous dire qu'il y a une nuit, on n'a pas dormi, quoi. Bon, le lendemain, heureusement, on s'est aperçu que c'était un artefact et que c'était pas le bon bétamou qui était du tritium, mais que, comme on travaillait sur l'hydrogène, en fait, bah, ce bétamou, il nous a emmerdé quand même. Là, on disait, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Parce que là, si c'est ça, voilà, on n'a plus besoin de Célestin, on n'a plus besoin... Donc, ça pose un problème, vraiment, hein. Donc ça, c'était pour la bombache, en fait, hein, à ce moment-là. Donc je sais que j'ai connu un peu cette expérience-là, mais d'un autre côté, voilà, on n'est pas tout seul, quoi. Bon. Donc ça, alors, j'ai remis ici, sur le papier d'Oppenheimer, et je vous avais, dans ma conférence que j'avais faite sur la découverte de la radioactivité, je vous avais mis le passage, justement, de Pierre Curie, dans son discours Nobel en 1905, Je vous rappelle qu'ils avaient eu Pierre et Marie Curie en même temps que Becquerel, le prix Nobel en 1903. Je dis ça pour ceux qui peut-être n'étaient pas à la conférence. Et c'est curieux de voir que leur discours Nobel est de 1905. Et en réalité, c'était la troisième fois qu'on attribuait le prix Nobel en 1903. Et puis, bah, Pierre et Marie Curie, en gros, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez le prix Nobel, vous ne discutez pas, quoi. À moins d'avoir enterré votre père ce jour-là, vous arrêtez tout ce que vous faites et puis vous y allez. Eh bien, à l'époque, bon, c'était pas encore ça. Alors, les Curie, ils ont dit à Becquerel, ils ont dit, écoute, tiens, ben, puisque toi, tu y vas, tu vas nous ramener notre prix, parce que nous, on n'a pas le temps, on a du boulot, tout ça, bon. Et évidemment, Becquerel est arrivé là-bas, et le comité Nobel lui a dit, ah, pas question, c'est pas comme ça que ça marche. Lorsqu'on a le prix Nobel, on peut venir, on doit faire une conférence Nobel, hein, vous savez, vous avez toutes les conférences Nobel sur Internet aujourd'hui, et puis vous devez venir chercher. C'est pour ça que, donc, ils sont allés que 2 ans après, et qui ont donc fait ce discours Nobel en 1905. C'est un peu le testament de Pierre Curie, parce que, comme vous le savez, il est mort peu de temps après. Et voilà ce qu'il disait. On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter, ou si cette connaissance ne lui sera pas nuisible. L'exemple des découvertes de Nobel est caractéristique. Les explosifs puissants qui ont permis aux hommes de faire des travaux admirables, ils sont aussi un moyen terrible de destruction entre les mains de grands criminels, qui entraîne les peuples vers la guerre. Et il terminait en disant « Je suis de ceux qui pensent avec Nobel que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. » Donc moi aussi, c'est un peu ce que je pense, c'est ce qu'on peut penser. Mais c'est vrai que ben vous avez les politiques derrière, et vous avez un peu une barrière. Et alors, il ne faut pas croire... je ne suis pas très loin, je n'ai pas tout fini.
Mais vas-y, t'as la parole.
Il ne faut pas croire que... Oui, comme je tiens le micro, c'est bon. Il faut pas croire que les politiques sont déjà obtus, des idiots qui ne savent pas, et que le scientifique, c'est lui qui sait tout, et qui doit leur expliquer ce qu'il faut faire. J'ai une expérience à vous donner. Peut-être que vous en avez parlé, mais je ne me souviens pas. Au moment où on arrête Superphénix, en France... C'était vraiment une énorme connerie, quoi. C'est-à-dire que tout le monde savait que c'était une énorme connerie. Et c'était manipulé par les Américains qui, eux, voulant, se disant, il faut qu'on fasse du retraitement, donc on va récupérer du plutonium, donc on va pouvoir remonter cette filière. Mais comme les Américains doivent être les meilleurs au monde, il fallait qu'il n'y ait personne qui ait des réacteurs qui fonctionnent là-dessus. Or, malheureusement, le pays des fromages qui puent, comme disait Tchepuki, qui avait là un grand engin qui marchait bien et tout, donc il fallait absolument le supprimer. Bon. Et du coup, moi, j'ai dit, bon, ben, moi, je suis fonctionnaire, je suis à disposition, justement, des élus, des ministres, etc. Donc, je fais un petit dossier, et puis, je suis allé, alors, à l'époque, c'était, donc, j'étais reçu au cabinet de Strauss-Kahn, qui était ministre de l'Industrie. De mon collègue Allègre, puisque à l'époque de la chaire de Marie Curie, j'étais prof à Paris 6, donc on était collègues tous les deux, donc on se connaissait bien. Et puis, au cabinet de Jospin. J'ai même pas eu besoin de sortir mon dossier. Mais monsieur le professeur, on le sait. On fait une énorme connerie. On le sait. Raison politique. Il fallait que Mme Voynet vienne dans le gouvernement de M. Jospin. Mme Voynet avait dit « Je ne viendrai que si on arrête Superphénix. » On arrête Superphénix. Mais il savait exactement très bien que moi, tous les tenants et les aboutissants de Superphénix. Il savait. Oui, je vous arrête tout de suite. On fait une énorme connerie. Moi, j'allais leur dire « Vous faites une énorme connerie. » J'ai même pas eu le temps. Donc, voilà. Bon. Donc, le politique, il sait très bien. Je veux dire, ce ne sont pas des imbéciles. Hein. Sauf que bah, vous avez la raison politique. Alors après, bon, raison politique, ça, c'est autre chose. Hein. Mais voilà, alors le scientifique est confronté à ça aussi. Hein. Bon, voilà, à partir de là, effectivement, bon, alors il y a aussi dans le problème des brevets, alors les brevets qui sont classés confidentiel défense ou secret défense, je sais pas quoi. Moi j'en ai un comme ça. C'est la catastrophe pour un scientifique comme moi. Vous êtes appelé, je sais pas, ça s'appelle plus la DST maintenant, parce que c'était la DST à l'époque. On vous dit, voilà, non, il n'est pas question que ce brevet-là sorte. Parce que c'est, hop, confidentiel défense, donc, voilà. Alors je dis, mais qu'est-ce que je fais, moi? Ben, il dit, vous pouvez continuer à travailler, hein, il n'y a pas de problème. Je dis, ah oui, mais moi, c'est l'industrie qui me paye. En l'occurrence, c'était un brevet Framatome. Je dis, moi, si je ne peux pas en parler, si je ne peux pas défendre, je n'avais même pas le droit de parler, même encore aujourd'hui, d'ailleurs. Puisque c'est pas sorti, même pas donné le titre, quoi. Pour pas que ça mette la puce à l'oreille de je ne sais qui. Bon, alors on m'a dit, écoutez, si un jour quelqu'un dans un autre pays sort la même chose que vous, alors là, hop, on dira, attendez, non, en France, c'est fait, ça a été déposé à telle date, on est les meilleurs et tout, on est les meilleurs. Mais, alors, on avait vraiment beaucoup d'avance, puisque personne n'a encore sorti un truc comme ça. Mais donc, voilà. Alors, ça explique pourquoi aussi. Les Anglais disent toujours que les frères White ont été les premiers à voler, ce qui est faux, puisque c'est Clément Ader qui a été le premier, sauf que Clément Ader, il était sous contrat militaire, et que du coup, c'est resté top secret. Et on lui a dit la même chose qu'à moi, c'est-à-dire on lui a dit, le jour où il y en a un autre qui vole dans le monde, alors hop, on ressortira le truc en disant, tot, il y a Clément Ader qui a fait ça il y a un an, deux ans, trois ans, etc. Bon, on l'a ressorti, et donc... Pour la majorité des gens, c'est Clément Ader qui est le premier à avoir volé, sauf que pour les Anglais, ils continuent à dire que c'est les frères White, évidemment, parce que ça les arrange. Mais voilà, voilà un peu. Donc c'est vrai que je voulais évoquer tout ça. Alors Oppenheimer parle bien, et alors pas beaucoup, il aurait pu faire ça mieux que ça, en disant, on me dit que les applications de la radioactivité, du nucléaire... ça pourrait être autre chose que des armes. Et en fait, dans le discours Nobel d'Irène Curie, donc c'est le prix Nobel de chimie 1935, je vous avais aussi montré la planche, là, ceux qui étaient là, c'était la première fois, en fait, qu'on découvrait que ce phénomène de radioactivité touchait tous les éléments, que du fer pouvait être radioactif, que du carbone pouvait être radioactif, etc. C'était, voilà, c'était une découverte fondamentale. Et elle disait, je pense qu'en biologie, en biochimie, on pourra utiliser ces radionucléides, comme elle disait, c'est-à-dire ces noyaux radioactifs, pour être utilisés à des fins de recherche, etc. Donc déjà, en 1935, vous voyez, on savait que, et c'était avant la découverte même de la fission, on savait déjà qu'on pouvait avoir des applications. Donc je trouve qu'Oppenheimer est un peu timide en disant, certains disent que, parce que, déjà, on travaillait là-dessus, en particulier à l'Institut du Radium à Paris. Hein. Donc, mais c'est vrai que la responsabilité du savant, elle est importante. Et puis, ben, voilà, le jour où le politique décide, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en disant « je déchire mon rapport », c'est exactement ça. Hein, voilà, ben, on fait le boulot et tout, puis d'un seul coup, on dit « top, terminé, c'est pas la peine, c'est fini ». Parce que nous, on a décidé autrement. Raison d'État, on m'a dit, moi, pour Superphénix. Raison d'État. Je ne sais pas si vous voyez. C'est fort, quand même, la raison d'État. Il y en a un, je ne citerai pas qui m'a dit raison d'État. Quand même. Bon, pour moi, c'était un geste politique. C'est tout. Hein. Bon, enfin, voilà. Donc, je pourrais répondre à d'autres questions, si vous voulez. Mais c'était ce que je voulais dire, rebondir sur l'éthique du scientifique. Voilà.
Donc, on touche effectivement sur la relation, mais ça va faire une bonne transition avec l'amiral. C'est. Oui. Quid des relations, justement, sur ce sujet-là, entre le scientifique et le militaire, qui sont tous les deux sous la tutelle, en principe, du politique. Quel type de relation le militaire a avec le scientifique? Il est une relation de subordination, mais plutôt de commandement. Hein. Ça a bien été le débat entre Grove et Oppenheimer dans le projet Manhattan. Et quel équilibre on peut trouver entre les deux pôles, finalement, du militaire et du scientifique? Parce que le politique, lui, il n'est là qu'à la porte de sortie. Il a le bouton sur la guillotine, et si ce qui sort du chapeau ne lui plaît pas, il bloque le système. Mais il ne participe pas directement au processus de développement, de découverte, de recherche, de choses comme ça. Donc est-ce que le militaire peut donner son sentiment sur la chose?
Alors je dirais premièrement que le militaire au sens large, il est comme sur beaucoup de sujets qui traitent de la chose militaire, il est l'interface entre le politique et les décisions de terrain. Alors c'est évident dans le domaine de l'emploi des armées, chef d'état-major des armées et son état-major traduisent en ordre militaire la pensée politique du président. Dans le domaine qui nous intéresse, le militaire qui en aura l'emploi une fois ordonné par l'autorité politique, eh bien, à cette interface. Ça le conduit à avoir une connaissance minimale, j'allais dire, de la technique, mais à bien appréhender cette technique au regard des enjeux politiques. Je m'explique c'est la marine qui met en œuvre avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins 99% de la dissuasion, en tout cas en volume. Quand on a fait les premiers sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, le redoutable, la marine a dit qu'il est hors de question que les militaires, les marins, qui vont mettre en œuvre l'arme nucléaire sur un bâtiment à propulsion nucléaire, soient des ignorants derrière leur boîte noire. Donc, le commandant, une capitaine de frégate à l'époque, un lieutenant-colonel, le commandant en second, capitaine de corvette à l'époque, depuis on a monté en grade d'un grade, le chef du service énergie, qui a à la fois la propulsion, la sécurité plongée, lui aussi, et puis ses adjoints qui ont vocation à devenir chef, tous ces personnages seront ingénieurs en génie atomique. Option réacteur ou option arme. Alors sur les armes, on a été un peu plus léger parce que il y avait moins de complexité, tandis que dans la conduite des réacteurs, il fallait être très... Inutile de vous dire que à ce moment-là, la marine a plongé, il y a trois composantes, les sous-marins, les marines de surface et l'aéronautique navale, plus aux extrémités, les commandos et forces spéciales. La marine a plongé vers les forces sous-marines et a mis toute son énergie, tout son potentiel et a déséquilibré le modèle. Mais il était hors de question qu'on envoie dans la nature un commandant et un commandant en second, parce que c'est les deux qui appuient sur le... sans qu'ils aient une connaissance minimale d'ingénieurs de haut niveau de ce qui allait se passer au moment où ils allaient mettre le code qui va bien. Au fil du temps, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas tenir ce rythme à moins de faire uniquement une marine de sous-marins. Et donc, on a été obligé de, entre guillemets, d'étarrer, et ça s'est fait en concertation avec le CEA et les scientifiques, les ingénieurs qui ont évalué le niveau minimum de formation et de compétences qu'il était nécessaire pour conduire une centrale nucléaire et tirer des armes nucléaires. Si bien qu'actuellement, sur le Charles de Gaulle, qui est l'autre bâtiment, il y a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins avec armes nucléaires à bord, il y a 6 sous-marins nucléaires d'attaque avec simplement chaufferie nucléaire, et le Charles de Gaulle a 2 chaufferies nucléaires, mais met en œuvre avec les rafales maintenant l'armement nucléaire. On a pris des dispositions pour que le commandant en second, le chef des opérations, le chef du, je ne sais pas si ça s'appelle toujours le groupement énergie, enfin tous les responsables à la fois de la chaîne de centrale et de la chaîne des armes, aient une culture minimale. Alors elle est très forte pour l'ingénieur, le chef du groupement énergie-propulsion, et pour le commandant et le commandant en second, on est passé à un brevet qui doit faire de l'ordre de 6 à 7 mois de cours, je crois actuellement. Ça, c'est la partie interface technique ou technico-opérationnelle entre le politique et le monde scientifique au sens large. La deuxième chose à savoir, avant que je parle du politique, c'est que ça m'avait frappé quand j'étais chez EADS à l'époque, avec Louis Gallois comme son conseiller. Et le soir où le dernier missile stratégique a bien fonctionné, je ne sais pas qui y en a dans la salle qui était dans cette réunion qui était boulevard de Montmorency, à 18h on a fait un pot avec la délégation générale pour le moment, le délégué qui ne sortait jamais, les ingénieurs et les militaires. Et à 9h du soir, les gens ne buvaient pas mais continuaient à papoter. Louis Gallois se retourne vers moi et me dit « Amiral, c'est quand même impressionnant de voir comme ils ont l'air de discuter comme des amis, etc. » Mais j'ai dit, mais ils ont travaillé toute leur vie ensemble. Ils ont une estime réciproque. Je ne sais pas si Gallois le savait ou s'il me posait la question simplement pour confirmer. Je pense qu'il le savait, connaissant l'homme qui est un petit peu filou tout en étant tout à fait remarquable. Mais il n'était pas trop sûr et il voulait confirmer cette opinion auprès de moi. Lui-même est resté jusqu'à 10h moins le quart, qui, quand on connaît Louis Gallois, et sa propension à refuser tout ce qui est cocktail et toute cérémonie comme ça. Et il est resté impressionné sur cette image des équipes militaires et d'ingénieurs qui, un, se connaissaient, deux, s'appréciaient, aimaient travailler ensemble pour un bien commun. Et si je prends cet exemple, qui là a trait avec la partie lanceur, hein, c'était la partie lanceur qui était concernée, bien sûr. C'est quand on a fait des groupes de projets, bon, ça s'appelle Célacante, où on intègre les équipes d'ingénieurs et de militaires, ça marche. Sinon, ça marche pas. Quand on fait d'un côté les militaires de l'état-major des armées et de l'autre côté les gens de Nexter qui construisent des chars, ça marche pas. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la relation avec le politique. Car le militaire, c'est la fonction de transformation. C'est son rôle principal. Le scientifique a accès directement au politique, c'est pas un problème, mais assez souvent, le politique, à moins que lui-même soit un ingénieur de haut niveau, ou passionné par ça, ou etc., il a de la difficulté à tirer les enseignements politiques de ce qu'on lui dit. Alors, le militaire, il est un peu au niveau, hein, c'est-à-dire le numéro 1, le numéro 2 des armées, le numéro 1 de la marine, le numéro 1 des forces océaniques stratégiques, etc. Il est chargé d'expliquer aux politiques, justement, non seulement comment ça se passe, hein, mais qu'est-ce qu'on doit attendre, quelles sont les implications, etc., etc. Et pour ne pas être trop long, je dirais que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le professeur juste avant moi. Le politique, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est d'ailleurs rarement une question d'intelligence dans notre pays. C'est une question de responsabilité. Tant qu'il n'est pas responsable, il écoute, ça rentre là, ça sort là. Le jour où il est responsable, alors moi, j'étais pas là à chaque changement de président, mais j'ai eu des témoignages du général Morin, du temps de Pompidou, ou des derniers là, pour Macron. Quand il descend dans la salle Jupiter et qu'on lui explique comment ça se passe, ça rentre là et ça reste là. D'ailleurs, il devient tout pâle, ce qui montre qu'à l'intérieur, ça chauffe. Voilà. Et ce sens des responsabilités, tant que vous n'êtes pas en responsabilité, politique comme militaire, tant que vous n'êtes pas en responsabilité, vous ne le prenez pas. Enfin, vous ne l'avez pas. Et donc, vous n'êtes pas capable de prendre des décisions. Si le jour où la responsabilité pèse sur vos épaules, je vais prendre une comparaison qui va vous faire sourire. C'est le jour où on devient père, qu'on devient adulte, en gros. Assez souvent, voilà. Parce qu'on commence à avoir la responsabilité d'un petit. Alors ma comparaison est assez médiocre, mais voilà la chose. Et chez les militaires, ne vous y trompez pas, il y en a trois qui ont ce sens. Le chef de l'état-major particulier, à part ceux qui ont, surtout les marins, qui ont trempé là-dedans, comme les commandants de sous-marins nucléaires, etc., il y a le chef de l'état-major particulier, c'est-à-dire le numéro 3 de l'Élysée, qui est actuellement l'amiral Rogel. Il y a le chef d'état-major des armées, parce que c'est lui qui a l'emploi des forces. Il y a le numéro 2, parce qu'il faut bien qu'il y ait un numéro 2. Et puis, il y a un ou deux. Donc, celui qui, à l'état-major des armées, s'occupe des forces nucléaires. L'inspecteur des armements nucléaires. Alors, ça tourne entre aviateurs et marins, là, puisque les aviateurs aussi ont une part de la composante nucléaire. En dessous, rien. Et en particulier, chez nous, en France, l'armée de terre est en dehors du coup. N'a pas d'arme nucléaire, n'a pas d'emploi, il n'a pas de réflexion. 99% des généraux de l'armée de terre n'ont aucune idée de ce qu'est l'arme nucléaire. Je ne dis pas que 99% des marins ou des aviateurs l'ont. Hein. Je dis que là, il y a un pourcentage plus important parce que ça a été leur métier et c'est tout. C'est pas 99% des généraux de l'armée de terre que vous rencontrez n'ont aucune idée de l'arme nucléaire. Et c'est quand ils prennent les 3-4 postes de responsabilité que j'ai indiqués, que même s'ils sont, j'allais dire, d'origine cirelettre, en anglais littéraire et non pas des ingénieurs, tchouk, ça dépote, tchouk, ils posent les bonnes questions, tchouk, ils ont la responsabilité. Et je crois que, pour résumer ce que je viens de dire, je dirais que le militaire, il est plutôt dans cette fonction de transfert, aider le politique à prendre conscience des enjeux, essayer de comprendre ce que disent les scientifiques, mais bon, en général, ils font l'effort d'être explicites, et traduire sur le terrain, parce qu'après, il y a l'emploi, il y a la doctrine d'emploi, il y a des sujets assez fondamentaux, il y a les équilibres budgétaires, il y a les arbitrages à faire, etc., etc. Voilà comment je situe dans cette problématique le rôle du militaire. Vous pouvez avoir des idées différentes, moi je donne mon avis et mon vécu.
Bon, merci de cette contribution, ça c'est très instructif, parce que c'est un témoignage direct du vécu du militaire. Alors, est-ce que c'est le moment peut-être, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une question plus particulière sur cette thématique? Oui.
On a vu récemment que des politiques qui ne connaissent pas trop à la chose militaire prennent des décisions... vis-à-vis de personnes qui ont fait leur classe et qui ont une certaine notoriété. J'ai évoqué l'affaire de Villiers.
Ils n'ont rien décidé, c'est de Villiers qui a démissionné.
Oui, voilà.
Donc, c'est tout. Hein. Lord Darmanin fait le malin en disant « j'ai fait démissionner de Villiers ». C'est faux, c'est de Villiers qui a démissionné.
D'accord, mais bon, il y avait quand même un...
Non, c'est pas d'accord, c'est ça.
Il y avait quand même un petit contexte.
Ah ben, il y a un contexte.
Il y avait des problèmes de réduction budgétaire une année, ouais. Puis pas l'autre.
Ouais.
On n'a pas forcément tout compris, la finesse de tout ça. Et puis, je pense que personne n'a compris. Et finalement, un militaire de carrière qui a vécu et qui a fait toute sa carrière sur le terrain et qui a servi la France, doit pour démissionner ou doit partir parce que des politiques le décident. Bon, ça me fait penser un petit peu à ce que vous avez, ce qui a été évoqué pour l'affaire Jospin avec la mise de Dole qui voulait rentrer au gouvernement puis qui avait donné comme volonté la fermeture du Superphénix. Et est-ce que c'est quand même pas, est-ce que c'est franco-français ça? Est-ce que ça arrive qu'en France ou est-ce que c'est malheureusement un peu partout pareil?
C'est partout pareil à partir du moment. Alors là, c'est relations politiques militaires. Hein. On est en dehors du nucléaire. le militaire, parce qu'il mène des soldats, des marins, des aviateurs au combat, le responsable, il est intransigeant sur un certain nombre de valeurs. Voilà. Le politique, il est obligé de composer avec certaines valeurs. Donc on a deux mondes qui ne se comprennent pas. Sur les affaires d'Irak, le grand commandement américain, les Américains ont 7 commandements, etc. Le grand commandement qui s'appelle le commandement central, CENTCOM, est dirigé par un général ou un amiral à 5 étoiles qui gère les affaires en Irak. Général Zili, l'amiral Fallon, le général Abizaid, 5 étoiles américains, ont démissionné après l'invasion en Irak. T'es le grand patron, hein, c'est pas les gens en Irak, t'es le grand patron. Parce que la politique de Bush ne leur convenait pas, paraissait contraire avec les ordres qu'ils avaient reçus, et eux, ils ne se voyaient pas engager les troupes en Irak sur des choses totalement contraires. Donc ces trois généraux, il y a deux généraux de... Zini, c'était... En plus, c'est vrai, Zini, c'était un marine, Fallon, c'était un amiral, et le troisième, c'était un US Army. Ils ont démissionné. Ils sont rentrés chez Boeing, ou je ne sais pas où, enfin, ils ont démissionné. Le général commandant l'armée de terre britannique, Danat, après l'Irak, quand il a dit au Premier ministre l'armée de terre britannique continue d'avoir des morts et vous réduisez les budgets, bon, ben, il a démissionné. Voilà. Et actuellement, il se trouve que bon, l'armée de terre britannique, c'est normal, elle a été un peu ramassée, elle est maintenant un peu... Donc ça arrive dans les trois grands pays. Dans les autres pays, ça compte pas parce que l'Allemagne n'a pas de chef d'état-major des armées. Il n'y a que ces trois pays qui comptent. Et dans ces trois pays, quand c'est nécessaire, jugé par les militaires, dans l'incompréhension totale des politiques. Voilà. Sarkozy, Sarkozy, il croit qu'on parle à des généraux comme on parle à des commissaires de police. On fait la brazzo. Et puis on joue les uns contre les autres. Non, pas chez nous. Alors, il y a des inimitiés, il y a des concurrences, il y a des ambitions, mais pas chez nous. Voilà. Et ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Ni Hollande, ni Macron, ni Sarkozy. Depuis De Gaulle. Bon, j'étais trop petit pour le connaître, j'allais dire en fonction, mais en gros. Et c'est comme ça. Hein. Bon, je fais pas de commentaires. Moi, je vous décris la situation telle qu'elle. Le général de Villiers a démissionné. Parce que, à la suite d'un accord en direct avec le président de la République, le petit ministre Hicul des comptes publics a fait comme ils font toujours Bercy, diffuser dans la presse des arbitrages qui n'avaient pas été entérinés. Comme ça qui marche Bercy. Bon, ouais, ça suffit.
Voilà. Oui, là, je relis ce qui est dit. Ouais. C'est un peu différent parce qu'on dit le savant, c'est celui qui sait, a découvert. Et on dit qu'il. Et son rôle dans l'identification et la promotion de ses connaissances. Autrement dit, moi, je suis le savant, j'ai pu concevoir des missiles, le dernier, là, celui qui va faire un truc pas possible, parce que c'est la première fois, là, on est dans quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est difficile. Hein. Et qu'est-ce qu'il doit faire face à un militaire qui va l'employer, parce que celui qui va appuyer sur le bouton, c'est pas le savant. Autrement dit, quel est son cas de confiance de livrer cette connaissance au bureau militaire qui lui-même, il y a un ennemi.
Non, alors moi,
que soit la puissance de la bombe, on y va.
Non, je vais vous répondre en partie à cette question. Quand le militaire est doté d'un nouvel équipement, qu'il soit conventionnel ou pas, il ne sait pas s'en servir. Non, il ne sait pas s'en servir. Et il met un certain nombre d'années à en tirer tout le parti que la technique lui permet de tirer. On a cité le Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est en mission opérationnelle depuis 18 ans. Nous sommes les seuls avec les Américains à mettre en œuvre des porte-avions, etc., machin chose. On a mis 8 ans à tirer 80% de ce que sait faire le Charles de Gaulle. Voilà. Dans les armements nucléaires, le militaire ne sait pas. Et donc, il acquiert petit à petit une certaine connaissance, mais Et car il est chargé, après, de proposer les éléments de concept, de doctrine, et puis les éléments tactiques d'emploi. Mais pour élaborer les concepts d'emploi, il faut qu'il ait une connaissance minimale. Et au départ, il ne l'a pas. Donc il faut qu'il travaille avec les ingénieurs, qu'il essaie de comprendre comment ça se passe, qu'il essaie de comprendre ce qu'on veut. Vous savez, l'arme nucléaire, elle a commencé par un combat tactique. Les gens ont trouvé que les derniers bombardements au Japon, à leur de mémoire, il y avait eu 170 000 morts ou à peu près de B-26, je crois, c'était à l'époque, juste avant. Voilà, bon, les militaires voient arriver un armement qui fait 500 ou 600 000 morts d'un coup, je ne me rappelle plus les chiffres. Bon, après, et ce sont les présidents américains qui l'ont... Sauf Eisenhower qui était le plus sérieux. Mais c'était un général aussi. Hein. Je suis un peu partial, mais c'était un général. Mais je veux dire, ils se sont dit, ben, bonne broche, on a un truc qui va coûter moins cher et qui va vous faire 600 000 morts d'un coup. Et donc, des deux côtés, à droite, enfin à l'Occident et au monde soviétique, on s'est dit, on va faire une bataille peinard, quoi. À 1000 km et on va se détruire tranquillement, comme ça. Et puis, bien évidemment, là, les uns et les autres ont travaillé ensemble. Et les Français n'ont pas été les derniers, parce que les Français ont fait partie de ceux qui ont imposé, au début des années 60, avant même que nous ayons les premiers armements. Je rappelle que les forces aériennes stratégiques, la première alerte opérationnelle s'est prise en 1964, et que les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, la première mission opérationnelle, il y a une différence, hein. L'aviation fait de l'alerte, les marins font une mission opérationnelle en 1972. Eh bien, dans la période 1966-7, par là, ce sont des équipes mixtes qui ont, à l'époque, ça s'appelait Centre de prospective et d'évaluation, je crois, enfin, il y a des appellations comme ça, dans le fameux général Poirier, ont mis au point concepts et doctrines qu'ils ont proposés au chef de l'État, qui les a approuvés. Voilà, c'est tout. Mais il y a un apprentissage. Règle de base, le militaire ne connaît pas l'arme que lui délivrent les ingénieurs. Hein?
C'est difficile parce que.
Non, mais.
Est-ce qu'il peut dire, je sais, j'ai un engin, je peux vous le montrer, je peux vous le dessiner, mais il est tellement puissant, ça va faire tellement de dégâts,
oui,
que je ne vous livre ma découverte que si vous mettez à côté de vous un système de contrôle pour ne pas l'employer n'importe comment.
Alors, ça, c'est autre chose.
Ben, c'est ça, c'est.
Autre chose. Non. Le système de contrôle, à mon avis, n'a rien à voir avec ça. C'est le fait que, comme c'est une arme de dissuasion, etc., machin chose, que ce n'est pas une arme de combat de terrain qu'on délègue au général, c'est une arme d'utilisation politique. Il est normal que ce soit le président de la République qui en décide d'emploi. Pour ça, il faut qu'il y ait un contrôle gouvernemental qui se fait, ironie de l'histoire, il se fait sur les bases aériennes, il ne se fait pas dans les sous-marins. Mais le camarade gendarme qui assure ce contrôle gouvernemental, visiblement, n'a pas le pied marin. Passer 2 mois sous l'eau, ça ne leur va pas. Hein. Ils se mettent en grève. Voilà. Donc, je plaisante un peu, mais ce n'est pas faux. Je vais vous laisser intervenir là. Moi, je caricature un tout petit peu, mais vous me demandez comment ça se passe. Et moi, je vous dis, au début, le militaire ne sait pas. Il découvre là.
Ce qui se passait là.
Hein. Voilà. Mais bon, après.
Ça s'est passé en 3 semaines.
Voilà.
Oui, il y a un élément de réponse à ça, c'est-à-dire que c'est jamais. Disons maintenant, tout est tellement compliqué qu'il n'y a pas un savant isolé. C'est un petit peu ce que disait Jacques Fauss, qui dit, moi j'ai trouvé mon petit truc dans mon labo sur ma paillasse et tout et tout, et ça, si je le dis à l'environnement, ça va faire des conséquences tout à fait catastrophiques. En fait, comme le travail est extrêmement morcelé, dès le projet Manhattan, il y avait déjà un travail de groupe très important. D'ailleurs, Oppenheimer a bagarré pendant toute sa période à Los Alamos pour dire, d'accord, on compartementalise au niveau de l'exécution, mais au niveau du top level, il faut quand même que les grands savants discutent entre eux, se renvoient la balle et tout pour faire avancer le schmilblick. Puisque, à part le concept lui-même, encore un an avant qu'on fasse péter la bombe, on n'avait aucune assurance que la chose pouvait marcher effectivement. Et on avait plutôt beaucoup d'arguments en faveur de dire, voilà, il y a ce blocage, et on ne va pas y arriver. Je rappelle la phrase, on va dire, allez, juillet, août 44 jusqu'à février 45, avec l'histoire du plutonium et de l'implosion, ils avaient quand même le moral dans les godasses. Et Oppenheimer, début septembre 44, a failli démissionner en disant finalement on n'y arrivera pas, il y a un mur infranchissable et on n'y arrivera pas. Bon, c'est passé et tout. Donc le fait de dire il n'y a pas une personne qui dit ah ben oui ça marche ou ça marche pas, et je le montre aux décideurs, aux militaires, aux politiques, parce que en fonction de l'opinion que je m'en fais, ça va changer la face du monde. Donc c'est plus.
Ah, oui. C'est l'ensemble des savants.
Bah oui, voilà.
Ça va être terrible.
Oui, mais là, justement, on tombe sur le fait, c'est le problème du relationnel, cet effet d'équipe qui était nouveau, qui a été mis en place un petit peu. Je rappelle quand même, il y a quand même quelque chose dans le projet Manhattan qui est tout à fait typique, c'est que le poids relatif des savants dans les comités dès le départ, il était, non pas majoritaire, mais très significatif. Essayer d'imaginer qu'on ait un système comme ça. Quand même, dans le comité, il y avait Conant et Compton, qui étaient des présidents d'université. Essayer d'imaginer aujourd'hui, si on inventait une nouvelle bombe, la première idée qui vient en politique, de proposer à des présidents d'université française de participer à un comité Théodule qui s'occupe de la question. On voit que l'influence de ce groupe de savants a été forte sur les militaires. Voilà.
On ne va pas durer longtemps. Je me rappelle le soir de l'explosion de la première bombe. J'étais en vacances à Dijon, à 5 km au-dessus.
Oui.
On avait une réunion le soir et on nous a annoncé ça.
Oui.
Dans notre copain, puis surtout quand on a 10 ans, 11 ans, on imaginait des tas de choses. Hein, c'est ça, bonsoir. Oui. Et on nous a dit, écoutez, mais c'est monstrueux, on va détruire une ville en quelques secondes, puis on va en faire d'autres. Oui. Bah, je me souviens un peu, hein. Nous, on a déjà vécu les bombardements à Dijon et des Allemands et des autres. Ce que ça peut être, je me souviens très bien l'impact sur nous, civils, moi, gamin.
Oui, alors je reviens.
C'est qui savait, et ce qu'il doit dire, c'est tellement monstrueux ce qui va se passer. Je ne vous livre ma recherche que si vous mettez en place un moyen de freiner. Quoi,
D'accord. Mais c'était avant. Alors, tu lis le rapport de Simpson, il dit en substance, il y avait un comité où il y avait la moitié de scientifiques, la moitié de militaires. La quasi-totalité, il a bien cité un nom d'une personne qui a changé d'avis à la fin, qui a dit, ben non, finalement, il ne faut pas faire le bombardement en réel. Mais par contre, la totalité des autres, et Oppenheimer et les gens qui étaient là, Conant et Compton, ont dit, oui, toute analyse faite, il faut bombarder en réel au Japon, pour toutes les raisons qui sont expliquées, on ne va pas recommencer, dans le document. Donc, les gens qui étaient là, qui étaient des scientifiques, qui n'étaient quand même pas des sanguinaires féroces, on dit finalement, on est partie prenante, on revient sur le problème de la responsabilité, qu'ils ont fait après porter par le politique, c'est-à-dire c'est quand même Truman in fine qui a dit ben, on y va, mais le comité a dit ben, il faut y aller. Et il y avait la moitié de scientifiques et la moitié de militaires. Et il n'y a qu'un scientifique qui s'est désolidarisé.
Mais tu n'as pas allé plus loin. Tu as commencé par rôle du savant. C'est
oui.
Tu m'as dit, si j'ai peur, est-ce que toi.
Oui, mais aujourd'hui.
J'ai livré mes connaissances aux politiques, qui seraient.
Non, mais. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible parce que c'est les politiques en dernier sort qui commandent. Ce qui était intéressant dans l'histoire de la bombe, c'est un sénateur, hein, qui c'est pas un scientifique, hein, qui a le point numéro 3 qui est parti. C'est que en fait, on était encore dans l'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si on devait faire éclater une bombe, on connaît sa puissance, on sait comment faire, etc. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la première bombe, c'était vraiment expérimental. D'ailleurs, les savants eux-mêmes, pendant le comité, ils disent qu'il y avait des présidents d'université, il y avait mieux que des présidents d'université, il y avait des prix Nobel quand même.
Mais c'était les deux à la fois, bon. C'était les mêmes. Donc, c'était des présidents d'université qui avaient des prix Nobel.
C'est quand même mieux qu'on s'appuie sur le prix
certes,
Nobel.
Certes, mais disons, chercher les présidents d'université dans l'université française qui ont des prix Nobel.
Voilà. La première était sur un trépied qu'on a fait exploser. Ils étaient tous partis à des kilomètres. Chacun avait fait son calcul pour savoir quelle pouvait être la force de sa bombe, mais personne ne savait en réalité. Bon. Et pour le reste, il n'en avait que deux. C'est-à-dire que il pouvait dire on va en faire éclater partout. En réalité, ça c'était du baratin parce qu'il en restait une à l'uranium et une au plutonium. Et encore, c'est bien dit dans le rapport Simpson que vous avez. Et encore, ils allaient dire on ne sait pas du tout ce qui va se passer parce que là on va la larguer d'un avion. Et ça n'avait jamais été fait. Donc, du coup, on est resté à cette époque-là dans l'expérience. Mais ce qui est important dans ce que dit Stimson, c'est dire, parce que les arguments de départ, de dire, oui, mais c'est les Allemands qui ont trouvé, ça, vous en savez quelque chose, puisque c'est la conférence que j'avais faite ici, là, sur l'histoire de la fission. Donc, on se souvient qu'effectivement, ce sont des Allemands qui, au départ, ont trouvé qu'est-ce que c'était que cette fission de noyau, et donc l'énergie libérée, etc. Mais quand on arrive en 45, en juillet 45, on a eu le temps d'aller voir les labos d'Allemands, de voir qu'en fait, ils n'avaient quasiment rien fait, parce qu'il fallait un pouvoir financier derrière, et puis un certain nombre de cerveaux, prix Nobel et autres, qui avaient bossé là-dessus, pour arriver en fait à faire cette bombe. Donc on savait déjà que cet argument n'était pas bon, que les Allemands ne pouvaient pas l'employer. De toute façon, les Allemands, ils avaient perdu. Mais même quand on allait dans les labos, je me souviens d'Auger, Pierre Auger, qui racontait ça. Lui, il était engagé, donc il était dans l'armée française. Et évidemment, comme c'était Pierre Auger, on l'a envoyé un peu regarder les laboratoires de l'époque, puisqu'il y en avait. Il y avait des savants allemands qui étaient partis, beaucoup en Amérique, mais il y en avait aussi qui étaient restés. Et en fait, il n'y avait rien, quoi. Ils n'avaient rien du tout vraiment avancé, quoi. Bon, ils n'avaient même pas la pile de Fermi de 1942. Hein, ils n'en étaient même pas là. Bon. Donc cet argument n'est pas. Et ce que dit Stimson est vrai. Il dit on ne pouvait pas avoir demandé aux Américains de faire un effort financier considérable et leur dire après, oh, ben non, tout compte fait, on a dépensé des milliards de dollars, mais... Bof, bof, c'est bon, on met ça de côté. Et pour le politique, voilà, c'est là l'argument politique. C'est dire, voilà, on a engagé, en gros, tous nos concitoyens à faire cet effort de guerre. Et c'est vrai qu'à l'époque, tous ces savants qui étaient là disaient qu'ils vivaient une période absolument merveilleuse parce qu'il suffisait de demander. En gros, on ne discutait pas les millions de dollars, hein. Il disait, tiens, ben, pour demain, je me souviens, je ne sais plus lequel, qui disait il me faut quelques kilos d'argent pour demain. Les financiers disaient, vous savez, nous, on est plutôt en once d'argent qu'en kilos, mais non, mais il me faut des kilos, il y a eu ces kilos d'argent. Hein, bon.
Ça,
donc voilà.
Le moteur, c'est la peur qu'elle arrive à l'endroit.
Et là, le moteur, si vous voulez, la décision, elle est politique sur l'effort.
C'est la confiance du savant, c'est pas ça.
Ah, ça lui échappe après, ça lui échappe. Ça, on lui demande même plus, on lui demande même plus son avis. On lui demande même plus son avis. Ça lui échappe.
Alors, Oui. Quoi ? Oui, oui. Vas-y.
C'est pas une question, c'est un commentaire. Donc, je pense qu'il faut davantage parler de chercheurs que de savants.
J'ai dit scientifique.
Et sachant que la recherche, il y a deux types de recherche. Il y a la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche fondamentale, c'est les labos universitaires, le CNRS, le CEA, et ces labos ne vivent qu'à travers les subventions qu'ils obtiennent grâce à leurs publications. Et quand on est au niveau de la recherche fondamentale, le spectre de ce que peut devenir cette recherche est très loin et échappe en général aux chercheurs. Et le fait de publier, le fait d'être en compétition avec d'autres chercheurs fait que la recherche sur le thème avance et à un moment donné, il y a quelque part un déclic qui se fait et quelqu'un dit ben « ça, je vais pouvoir en faire quelque chose d'autre ». Et c'est là que les choses peuvent devenir effectivement dangereuses. C'est aussi pour ça qu'il y a des comités d'éthique. C'est pour dire à un moment donné « stop », c'est pour prendre du recul par rapport à une recherche et que des gens qui ne sont pas directement impliqués dans la recherche se posent la question de savoir ce que ça peut devenir, et les comités d'éthique ont cette fonction. Après, il y a, une fois que la recherche fondamentale a suffisamment avancé et livré des produits qui vont pouvoir être transformés en applications, on rentre dans le domaine de la recherche appliquée. Et là, la recherche appliquée, les gens qui travaillent pour la recherche appliquée, ils savent très bien pourquoi ils travaillent. Ils sont financés pour travailler sur le résultat qu'ils vont obtenir. Aujourd'hui, les gens qui travaillent pour la dissuasion nucléaire, ils savent très bien pourquoi ils travaillent. Ils le font en connaissance de cause, ils sont payés pour le faire. Ils n'ont pas à avoir d'état d'âme. Donc, aujourd'hui, la réalité n'est pas exactement celle qui s'est passée autour du projet Manhattan. Projet Manhattan, on a fait à la fois
de la recherche fondamentale et de l'applicatif. Voilà.
Effectivement, le jour où les gens ont pris conscience de ce qu'allait pouvoir être le résultat de leur recherche, certains ont pu prendre peur. Mais voilà. Aujourd'hui, le monde de la recherche ne fonctionne pas comme ça.
Juste apporter un témoignage là-dessus. La Défense consacre un petit peu moins d'un milliard. Enfin, l'objectif, c'est de 1 milliard. Et un des débats qu'on a chaque année, mais qui est trop court, c'est la part respective de la recherche ouverte ou fondamentale, de la recherche appliquée. Sachant que du côté des armées, on a besoin d'aller sur le nouvel avion, la nouvelle dissuasion, etc. Et que la partie qui est financée par le budget de la défense sur la recherche fondamentale, je ne sais pas si on emploie cette expression, le PEA, voilà, le programme d'études amont, elle est toujours discutée parce qu'il n'y a pas de concret derrière. Mais je sais que c'est ce problème qui est plus philosophique qu'autre chose, il est évoqué une fois par an, un après-midi. Voilà.
Sachant que pour avoir à une époque travaillé sur les programmes d'études amont, c'est quand même des programmes études amont relativement appliqués.
Oui, il y a une idée.
Il y a une idée.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de conscience du savant derrière sa paillasse, comme tu disais. Il trouve quelque chose, il peut y avoir des effets très bénéfiques, et puis en même temps, il y a des effets maléfiques.
Oui.
Actuellement, tout le monde cherche comment stocker l'électricité.
Oui.
Je suppose que demain matin, on trouve.
Oui.
Il y a des applications militaires évidentes,
oui.
Des applications civiles encore considérables.
Oui.
Donc là, parce qu'on est depuis le début, on discute que sur les aspects maléfiques d'une découverte,
oui.
Hein, et les implications militaires, mais il n'y a pas que ça, oui. La recherche. Oui. La recherche, elle a aussi pour but de trouver des choses qui sont bénéfiques à l'humanité. Par effet collatéral, il peut y avoir des effets maléfiques.
Alors,
un exemple très concret, si on remonte à Léonard de Vinci,
l'hélicoptère a sauvé
plus de vies humaines qu'il n'en a tué.
Oui. Encore une anecdote comme ça que je n'ai pas parlé dans ma conférence, là, c'est Lorentz qui a inventé le cyclotron. Il l'a inventé juste au début de la crise économique des années 30. Hein. Et donc il a fallu qu'il rame beaucoup pour obtenir les financements, même universitaires. Mais enfin, les universités sont riches aux États-Unis, c'est un système complètement différent du nôtre. Et il a dit explicitement dans des articles, il a dit « j'ai utilisé l'argument de la santé, c'est-à-dire du rayonnement qui pouvait être utilisé pour tuer des tumeurs, et il l'a même utilisé sur sa belle-mère, et ça a marché. Hein. » pas pour la tuer.
Pour, dans quel sens ça a marché ?
Non, ça a marché, mais il a dit des années après, c'est-à-dire après la guerre, il a dit vous savez, quand on demande des crédits, quand on parle de la santé, ça marche. Si on dit que c'est pour faire de la physique fondamentale, là, ça intéresse personne et les gens rasent les murs et vous écoutent pas. Hein. Donc, il y a aussi une petite stratégie du chercheur. C'est pas aux gens du CEA que je vais apprendre. C'est pas aux vieux sages qu'on apprend à faire la grimace. C'est-à-dire qu'il y a un emballage un petit peu des motivations des demandes de crédit qui doit être fait subtilement vis-à-vis des bailleurs de fonds. Hein, voilà. Hein. Donc c'est aussi dès Marie Curie, dès le départ, quand elle a trouvé la radioactivité, l'idée de l'utiliser pour des applications médicales, elle l'a eue tout de suite. tout de suite.
Hein? Curie,
tout de suite, mais même avant, au moment, la curie-thérapie, avant le prix Nobel, en 1900, elle l'a écrit. Hein?
Oui, ben là, effectivement, à partir du moment où cette application-là arrive en premier, oui. Elle est forcément diffusée sans état de conscience.
Oui. Bon, alors, ce que je vous propose, bon, je pense qu'on a quand même pas mal visité cette thématique, on va un peu changer de thématique, on va parler maintenant de la dissuasion. Donc la bombe, on en a fait péter deux pour tuer des gens et arrêter la guerre. Et donc tous les pronostics de tous les savants, de tous les militaires en disant il y aura la course aux armements, ben oui, il y a eu la course aux armements et voilà l'état des lieux récent que j'ai trouvé dans un article assez récent. Donc il y en a partout, donc il y a une carte où on a le nombre d'ogives, machin. Et ça c'est l'état actuel, c'est-à-dire après le pic. J'avais une autre courbe, enfin c'est passé par un pic dans les années 70-80, et puis après avec les traités de réduction des armes nucléaires, il en reste encore pas mal, et on a bien sûr mis Israël, l'Inde, la France, etc., etc. Bon, il y en a beaucoup partout, et on ne veut pas faire l'exégèse de ça. Est-ce que vous pouvez faire une petite synthèse en disant ben, comment la France voit quelle est la doctrine de la dissuasion, la rappeler quand même pour que ce soit clair dans l'esprit des gens, et puis ensuite comment elle se situe vis-à-vis de l'état actuel et futur du monde vis-à-vis de la possession de toutes ces armes. C'est une conférence
une conférence en soi, là, quand même. La dissuasion aujourd'hui, hein, quand même, il y a un état des lieux qui tient compte du fait qu'il y a eu l'arrêt des essais nucléaires, donc le développement de la simulation et des outils de simulation, c'est-à-dire qu'on a engrangé l'expertise qui permet d'assurer dans la durée que les armes nucléaires fonctionneront. Ça touche à la fois le potentiel humain, c'est vrai qu'il y a des équipes qui continueront, une capacité d'essai, qui tourne autour du laser mégajoule, en gros, et puis d'autres capacités un peu plus englobante, le supercalculateur, la radiographie AX, etc. Bon. Ça veut dire que à partir du moment où la France a arrêté les essais nucléaires, la dernière série reprise par le président Chirac, après que Mitterrand... J'étais à l'Élysée avec le Centre des hautes études militaires quand Mitterrand, qui était malade et presque était jaune de maladie, pendant 1h40, debout, nous a dit pourquoi on arrêterait les essais nucléaires définitivement et pourquoi son successeur ne pourrait pas les reprendre. C'était brillantissime. En plus, l'homme était au bout de sa vie et c'était assez poignant. Donc Chirac a repris. Et après, on a arrêté. Et j'allais dire, avec quelques principes, la suffisance... C'est pour ça qu'on a un petit peu réduit le nombre de vecteurs. On est passé c'était la fin de la guerre froide, hein. On est passé de 6 sous-marins nucléaires lançant d'engins à 4, comme les Anglais d'ailleurs. On a conservé la capacité aérienne parce que pour des tas de raisons qu'on peut développer, qui n'a aucun intérêt dans la doctrine de la dissuasion, mais qui est essentielle pour un pays qui fait sa dissuasion tout seul. Voilà. C'est pour ça que les Anglais n'en ont pas de composantes aériennes, ils l'ont supprimé. Les Anglais, ayant des missiles, des têtes et des corps de rentrée américains, avec une double clé, ils ont besoin d'un sous-marin nucléaire. Alors, quand qui dit un, dit trois pour en avoir un en opération, mais ils n'ont pas tenu de démontrer que leurs missiles et leurs armes marchent, les missiles maintenant. Ce sont des missiles américains, tout le monde présuppose que les missiles américains marchent. Nous sommes tout seuls, donc il faut qu'on montre que ça marche. Et donc, on a continué à avoir ceinture et bretelles, c'est-à-dire parachute ventral et dorsal, avec la composante aérienne. Il se trouve que cette composante aérienne nous a permis, dans la technique des missiles, de développer des capacités de missiles supersoniques qui sont intéressantes dans le débat conventionnel. Alors on a donc un outil qui doit durer dans le temps. J'ai oublié de vous dire que, mais là je parle devant les spécialistes, on a, avant, je prends souvent l'image de la course du relais 4x100. Quand vous avez une course finale des championnats olympiques de 4x100, vous avez une zone de relais qui fait 2x10 mètres, et les types arrivent à toute vitesse, il faut que le relais, le bâton, lui, traverse une vitesse constante, la plus grande possible, le truc. Une explosion nucléaire, c'est une succession de relais, excusez l'image, mais elle est pour le grand public, et on cherche à réduire cette zone de passage, parce qu'instinctivement, le coureur, il va un petit peu réduire, et l'autre, il ne va pas partir à fond. Et donc, on arrive, par l'expérience, à faire des zones de passage du relais très courtes. Maintenant, à partir du moment où on ne s'entraîne plus, on fait que la finale, on va doubler la zone de relais, bien sûr. Parce que si on ne s'entraîne jamais, le jour de la finale olympique, on va doubler. Et donc, on fait des charges robustes. Mais j'en dirai pas plus. S'il y en a dans la salle qui veut l'expliquer, ce qu'est une charge robuste, je me garderai bien de le faire. Voilà. Donc on a ça. On a l'outil de simulation, on a les équipes qu'on essaie de garder pour perdurer, on a développé un certain nombre de techniques, et on change des têtes. Qui sont susceptibles de parer les imperfections qu'on ne verrait pas en ne faisant pas les expériences qu'on faisait dans les centres d'essai nucléaires. Avec ça, on a toujours une doctrine de menace d'emploi, c'est pas de non-emploi. De non-emploi en premier est une réponse à une attaque. C'est un sujet qui diverge un petit peu, hein, et pour faire propre, un certain nombre de pays disent qu'ils l'utiliseront jamais. En gros, les grands disent qu'ils l'utiliseront jamais en premier. Parfois, certains laissent planer le doute. Mais c'est quand même une réponse, une mesure de rétorsion. Et la question qu'on se pose, c'est devant tous les débats qui s'ouvrent actuellement, capacité des défenses antimissiles, légitimité internationale, arrivée de nouveaux intervenants qui respectent pas les règles minimales internationales, ou qu'on n'a rien à faire de se faire sauter avec leur ceinture d'explosifs, comment faire pour continuer à être pertinent? Et c'est actuellement le débat sur la dissuasion qui est tranché régulièrement à chaque alternance, à chaque changement de président, toujours dans le même sens: stricte suffisance, économie des moyens, modernisation constante. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc il faut que notre outil soit performant dans la durée. On va lancer les SNLE de troisième génération, après la génération des redoutables, la génération des triomphants, je ne sais pas comment ça s'appellera, mais les suites. Il y a l'évolution du missile lui-même, et puis, bien sûr, les évolutions de l'armement, de l'arme nucléaire elle-même, mais là, je préfère ne pas en parler, parce que le sujet est plus difficile. Donc on est dans cette tendance, et je l'ai dit tout à l'heure, quand pour ceux qui assistaient à la conférence sur l'Europe, nous sommes entourés d'adversaires résolus. Américains, Allemands, les 26 autres pays européens qui ne veulent pas voir une France qui est sans arrêt en grève, qui a plombé son industrie, j'ai rappelé les chiffres tout à l'heure, et qui tient le verbe haut, parce que là, plus personne ne parle de bombinette, d'ailleurs, dans le monde entier, parce qu'elle a la bombe. Donc, les Allemands veulent nous virer, les Américains, je n'ai pas parlé, mais quand j'ai cité le traité de Lisbonne de 2009, il y a eu une réunion de l'OTAN, il y en a une chaque année à Lisbonne en 2010, et il a fallu qu'on négocie avec les Américains le fait que l'arme nucléaire était l'arme fondamentale de protection des pays de l'OTAN. Ils étaient prêts à lâcher un peu de mou sur l'insistance allemande qui voulait que ça disparaisse. Pour nous couler. Les Allemands veulent nous couler. Se rappeler, hein. Donc, on continue. Ça nous coûte 3 milliards par an à peu près, bon an, mal an. ce qui n'est pas excessif pour le prix de la sécurité. Ça, c'est mon avis et je le partage. Et après tout, je sais pas, c'est le président Fournier qui disait ça fait 73 ans. Ça fait 73 ans qu'il y a pas la plus longue depuis je ne sais pas combien de siècles, période. Et pourquoi pas pour que ça dure. Voilà. En gros, après, je peux élaborer sur chacun des thèmes que. Parce qu'il faudrait faire une conférence totale sur chacun des thèmes que j'ai développés. Sur la défense antimissile, quand même, il y a eu une. Les Américains ont coulé les Soviétiques en faisant l'initiative de la guerre des étoiles. L'initiative de défense stratégique, ça a coulé l'économie russe, soviétique. Et ils ont développé des systèmes de défense antimissile balistique qu'ils ont besoin d'implanter en Europe pour protéger le territoire américain. En particulier les GBI, c'est-à-dire les installations basées à terre, ground base. Voilà. Et donc, il y a des bons esprits qui ont dit, ben, avec des défenses antimissiles aussi performantes, nos missiles vont-ils pouvoir aller toujours dans une stratégie, alors elle évolue un peu entre anticité, anti-centre de pouvoir, etc. Aller, puisqu'il y aura des défenses antimissiles de plus en plus sophistiquées. Alors moi j'ai un élément de réponse. Vous savez qu'on s'était un peu répartis. Non, c'est pas. Enfin bref. Quand pendant la guerre froide, on tirait sur deux ou trois grandes villes, et on avait particulièrement étudié la capacité de défense antimissile de ces cités, sachant qu'il était convenu entre Américains et Russes que certaines d'entre elles n'étaient pas défendues, ça garantissait la dissuasion de part et d'autre. Bref. Quand on a commencé à l'OTAN à parler de défense antimissile de théâtre, l'OTAN a fait un appel d'offres et il se trouve que c'est un consortium franco-américain, SAIC pour l'ingénierie, pour ceux qui connaissent cette boîte d'ingénierie, mais un consortium franco, Thales, Safran, DS, etc. En gros, navigation, propulsion, guidage, qui ont remporté le Schmilblick à l'OTAN. Et qu'est-ce qui a fait remporter? On était peut-être moins cher que les grands Américains, mais je ne suis pas sûr. Mais les Français avaient la réputation, de la part de ceux qui expertisaient notre capacité, d'être des perceurs de défense antimissile balistique, donc d'être des experts de la défense antimissile balistique. Alors, c'était la défense de théâtre, hein, ce n'est pas la défense globale, mais je veux dire par là que, face à cette propension qu'ont certains de dire ça sert plus à rien votre truc puisque maintenant on va pouvoir se protéger, c'est du pipeau, voilà. Et ce pipeau, il a été reconnu par le fait que l'OTAN, qui ne nous aime pas, nous a confié la défense antimissile des théâtres au vu de notre expertise. Alors j'ai cité Thales, Safran, ADS, enfin j'ai cité les grandes sur l'exploitation des bases de données, les modules d'évaluation de la menace, la façon de traiter. C'est nos systèmes et nos systèmes de systèmes, parce que nous, on est assez bon en ingénierie de systèmes, hein, c'est ce qui fait la différence, ont été bons. Alors après, il y a d'autres sujets, mais je ne veux pas tenir le crachoir trop longtemps, qui est la prolifération, et puis tout un débat, mais qui n'existe pas trop en France, qui reviendra peut-être quand on fera le cinquantenaire de mai 68, mais ça c'est un autre sujet, donc je laisse la parole. Merci. Je n'ai pas tout traité, hein. Je suis désolé, mais je n'ai pas tout traité.
Oui, vas-y.
Est-ce que la logique de dissuasion, de prolifération, ne risque pas d'être remise en cause par des États voyous qui peuvent faire des bombes de capacité moindre que celle des grands acteurs, mais qui peuvent bousculer un peu tout le débat et remettre en cause ce principe de dissuasion.
Alors, nous, on fait intervenir la dissuasion quand nos intérêts vitaux sont en jeu. Nous avons étendu nos intérêts vitaux, sur la présidence de Chirac d'ailleurs, à autre chose que stricto sensu le territoire métropolitain. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une zone de flou. Donc, il faut qu'un État voyou ait la capacité... Faire une bombe, les gens savent faire. Ils sauront faire. Après, il faut la propulser, l'envoyer à plusieurs milliers de kilomètres, et puis qu'elle pénètre. Ça, c'est une chose. Moi, j'observe qu'à un moment, on en a beaucoup parlé à propos de l'Irak. Et Chirac a dit, il y a des journalistes américains qui l'ont répercuté, s'il joue au con, on le vitrifie. Ça a été repris dans tous les journaux américains. Ça n'a pas été repris en France. Étonnant. Mais c'est bien ça, la vérité. S'il joue au con, on le vitrifie. Alors, c'est aucune intention de le faire. Hein, c'est pas le problème. Mais c'est ça, la dissuasion. Et ce discours-là, on sait qu'il a eu des répercussions dans un certain nombre d'endroits. Voilà. Donc je pense que le principe de dissuasion, qui est de dire, moi, si mes intérêts vitaux sont attaqués, je balance des armements nucléaires, je vous donne une vague idée de ce que sont mes intérêts vitaux, je vous dis même que j'ai des intérêts stratégiques qui ne sont pas vitaux, des intérêts économiques qui ne sont pas stratégiques, des intérêts machin chose, comme ça vous pouvez faire une idée, mais je ne vous en dis pas plus. Je garde ma maison, j'ai des armes, j'ai de quoi de vous détruire si vous pénétrez chez moi, mais je ne vous dis pas si c'est quand vous franchissez le portail, la porte d'entrée, ou si vous êtes dans la salle des coffres. Et ça marche. Jusqu'à preuve du contraire, mais l'arrivée d'États voyous, ou d'organisations non étatiques voyous, je ne sais pas si un féminin voyou, fait qu'on réfléchit, mais il serait pour moi dangereux d'aller sur une, entre guillemets, prolifération par miniaturisation d'armements nucléaires destinés à traiter de petites cibles. Parce que là, on rentre dans un jeu qu'on n'est pas capable de tenir. Nous, c'est tout ou rien. On est 65 millions de Français, et si vous nous attaquez, pendant la guerre froide, on disait aux Russes, aux Soviétiques, on fait tout pour vous détruire 65 millions. Alors ça fait pas rigoler les Soviétiques, ça fait rigoler les Chinois, hein, ils sont 1,5 milliard, mais on n'a jamais dit qu'on attaquait. Mais à l'époque, les Soviétiques voulaient nous attaquer quand même. Donc on s'était mis en mesure, on n'était que 60 millions à l'époque, de détruire 60 millions, ou les capacités équivalentes, etc. Voilà. Je pense que le concept est pertinent parce que dès que vous êtes en conversation à assez haut niveau, vos interlocuteurs vous demandent, je reviens sur la question du contrôle gouvernemental, moi j'ai fait partie du haut comité stratégique franco-indien, puis d'autres comités. Les Indiens, quand ils ont développé l'arme nucléaire, ils nous ont demandé s'il fallait des sous-marins, des avions, un truc comme ça. On a dit, voilà, nous ce qu'on fait. Et puis l'année suivante, à Delhi, ils m'ont pris à part parce que j'étais le chef de la délégation française et il y avait un ministre, enfin, pas le ministre de la Défense, mais un ancien ministre qui était chargé de la partie politique. Et ils m'ont dit maintenant, comment vous faites le contrôle politique? Alors j'aurais dit, démerdez-vous, je suis en Indien. C'est chaque pays, en fonction de sa constitution, de son éthique, etc., se débrouille. Ce qui prouve qu'ils avaient déjà une petite idée de. Pour eux, la dissuasion, ça commençait à devenir fondamental. C'est pas du tout le cas du côté du Pakistan, hein, qui est beaucoup plus dangereux. Voilà. À ce sujet.
Et une notion importante, c'est également, est-ce que les pays qui détiennent l'arme sont ou non des démocraties? Selon qu'on a affaire à une démocratie ou à l'État du Nord ou du Pakistan, débat et le risque n'est pas le même.
Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Un dictateur, on peut le tenir. Un État en pagaille, comme le Pakistan, on ne le tient pas. Un dictateur, on le tient. Il faut se doter des moyens, mais comme lui tient son pays, on peut le tenir. Alors, le régime idéal, c'est la démocratie, hein, bien sûr. Tout le monde se chamaille, et puis à la fin, bon. Mais une dictature n'est pas un objet de menace. Voilà. Il suffit de se doter des moyens de faire pression sur le dictateur. le Pakistan qui est traversé par l'islamisme, etc., machin, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Les services secrets sont plus importants que l'armée, mais qui est moins importante que machin, chose, etc. Là, on ne sait pas s'il y a un interlocuteur. Ils ont l'arme, ils ont une volonté de machin, ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais le reste, non. Enfin, je caricature, forcément.
Nous n'avons pas parlé de la Corée du Nord.
Je sens qu'on va en parler.
Oh non, mais moi je parle.
Ça c'est militaire, là, tu parles.
Le dictateur coréen a compris qu'il aurait la paix le jour où il aurait l'armement nucléaire, qu'il aurait la paix, enfin, je veux dire, voilà. Et on est dans un jeu entre la Chine, la Russie, les États-Unis, la Corée du Nord, qui est intéressant, puisqu'il est puissamment soutenu par la Chine. Donc, mais qu'on a plus de moyens de pression sur les Chinois, en particulier les Américains, n'ont aucun moyen de pression sur les Chinois actuellement. C'est de leur faute. Voilà, mais bon. Et donc, il a des. Alors après, c'est passé aussi par le Pakistan, hein, des transferts de technologies qui sont passés par des tas de pays. Ben, il a fait un constat, un État doté de puissance nucléaire n'est plus jamais envahi. Alors qu'est-ce qu'on a fait ?
Parce qu'il est un dictateur.
Eh bien justement, c'est. Alors. Le tout, c'est de savoir qui le tient. Et c'est Xi Jinping, là. C'est le Pékinois qui le tient. Et nous, on ne tient pas le Pékinois. Voilà. Mais je fais un petit peu courte là-dessus. Mais je pense qu'il n'y a strictement rien à craindre des rodomontades, parce que lui, il est obligé. Lui, il sait qu'il y a un certain nombre de Coréens, peut-être par million, qui ont envie de lui couper la tête, hein. Donc il est obligé de faire une fuite en avant. Et comme avec Trump, il a le sparring partner parfait, hein, parce que tout à l'heure j'ai fait une pointe sur les démocrates, qui ne nous aiment pas, mais alors avec Trump, c'est pas un démocrate, mais on a le pompon. Alors il fait des trucs très bien, mais je veux dire, voilà. Ce qu'il fait, d'ailleurs, il revient, hein, vous avez les taxes sur l'aluminium ou je sais pas quoi, enfin bref, il n'y a pas grand-chose qui avance, hein, même le mur entre le Mexique, il n'avance pas, quoi, donc ça avance pas beaucoup. Mais Trump a bien servi les intérêts du dictateur coréen, voilà. Alors, c'est tout, donc nous, il ne faut pas qu'on soit observateur totalement de cette aventure, parce que je rappelle que 90% du trafic mondial en volume et en valeur se fait par voie de mer, que la plupart des choses que nous avons ici viennent de l'Asie, y compris l'Asie du Sud-Est, par voie de mer, et que, y compris tous ceux qui ont un Samsung, hein, ou d'autres, et que si ça chauffe là, eh bien, voilà. Alors nous on n'est pas capable de régler les affaires, hein, mais donc on ne peut pas rester indifférent en disant ça se passe à 10 000 km et entre que les jaunes et les Yankees se tapent dessus. Non, c'est notre problème. Mais nous on ne règle plus les problèmes, hein, il faut qu'on adapte notre. On n'est pas en ordre serré avec les autres Européens. Et c'est là où une Europe qui interviendrait serait beaucoup plus efficace. Quand on se met. Voilà. Mais l'Europe, je l'ai dit, l'Europe, on va la construire avec les Allemands, mais pas dans la défense. Et dans la défense, on travaille qu'avec les Britanniques. Mais l'Europe, on la fera qu'avec les Allemands. Voilà. Et il faut qu'on trouve un nouvel équilibre, puisque maintenant, l'équilibre économie-politique était l'équilibre de Gaulle-Adenauer, et puis etc. Il est rompu, puisque c'est économique et politique, et nous, voilà. Et on a une fenêtre de tir que Merkel est en difficulté, que Macron a été élu. Bon, et cette fenêtre de tir, il faut qu'il l'utilise rapidement, notre président. Voilà.
Et vous croyez que c'est compatible, cette alliance franco-britannique défense et construction de l'Europe avec l'Allemagne? Est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné un problème qui se posera et il faudra choisir?
Alors, on revient sur l'Europe, là. La puissance militaire potentielle allemande fait peur. pas à moi.
Ah ben, dans le vieux cerveau, oui.
Dans le cerveau reptilien. Et puisque tu m'en offres l'occasion, je vais poser une question que je pose depuis 20 ans aux politiques et qu'aucun d'entre eux ne m'a jamais répondu, donné la bonne réponse. Le général Bossert est le chef d'état-major de l'armée de terre française, c'est un général d'armée à 5 étoiles. L'armée de terre, tout compris, à 70 000 combattants, c'est un peu moins de 100 000. Le général qui commande la Heer, c'est-à-dire l'armée de terre allemande, combien d'étoiles a-t-il ? Là, aujourd'hui, il a une armée de 100 000 hommes.
100 000 hommes ?
Combien d'étoiles a-t-il ?
Mais vraiment, des soldats
forts ? Non, parce que c'est une armée parlementaire et syndiquée, c'est un autre sujet. Il a le même volume d'armée, l'anglais à 5 étoiles françaises, l'espagnol à 5 étoiles françaises, etc. Combien d'étoiles le général allemand ou le commandant de la marine allemande ou le commandant de l'armée de l'air allemande ?
4.
Une de moins. Pourquoi ? Ils ont perdu la guerre. Qui surveille ? Les Anglais. Et comme on les a mergés en... merge en anglais. fusionnés dans l'OTAN, ils ont deux postes de 5 étoiles dans l'OTAN, chef d'état-major de chef de l'OTAN, le patron, l'américain, le numéro 2, et un poste à Brunsum aux Pays-Bas. Et ils ont, pour l'ensemble, alors là, de la Bundeswehr, c'est-à-dire la Heer, la Luftwaffe et la Deutsche Marine, ils ont un général inspecteur, qui n'est pas du tout le chef d'état-major des armées, à 5 étoiles. Et alors, a dit, ça suffit. Donc, et dans le cerveau reptilien, non pas des Français de l'Est de la France, mais des Brites, il est hors de question que les Teutons reviennent. Voilà. Donc, je vais te donner un autre exemple après, si on me laisse le temps. Mais dans cette affaire, il faut qu'on trouve les voies et moyens de faire l'Europe. On a déjà fait l'euro, il faut qu'on fasse un Schengen, il faut qu'on reparte sur une base à 2 à 3, il faut qu'on fasse des constructions industrielles qui marchent. Les constructions industrielles qu'on a fait avec les Allemands, on les a faites, c'est nous qui avions les bijoux et ceux qui avaient le coffre. Voilà, c'est EADS. Typiquement, c'est EADS. Hein. Voilà. Ça, ils sont d'accord. Dès qu'on arrive à 60-40, etc., ils sont plus d'accord. Quand c'est 70-30, et nous, on apporte 70 pour faire un mariage de 50-50, là, ils sont d'accord. Voilà. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Et on va continuer de se battre avec les Anglais. Et quand je dis que c'est pas une invention de ma part, quand on a voulu que l'Europe... Non, mais quand on a voulu... Je peux parler encore un peu de l'Europe ?
Ah, mais c'est... On vous écoute religieusement. Hein.
Non, merci, mon père. Quand on a voulu monter l'Europe de la défense, dont je n'ai pas eu le temps de parler, donc on s'est dit, on développe des états-majors dans chaque pays pour conduire des opérations. Les Français, on a dit, ce serait plus malin si on faisait un état-major à Bruxelles ou à Truc, parce qu'au moins, on mettrait nos trucs ensemble, donc on couperait les coûts, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, les Anglais ont dit d'accord, ils ont mis un général anglais qui a coulé l'affaire. Donc on s'est retourné vers les Allemands. Et les Allemands, on leur a dit, écoutez, vous avez une armée parlementaire, c'est-à-dire ni le chancelier ni le ministre de la Défense à l'emploi des forces. Le syndiqué, ça c'est autre chose. Et maintenant vous êtes en opération depuis la Yougoslavie, hors du territoire. Et finalement, vous n'avez aucun lien avec le politique, c'est-à-dire que vos militaires reçoivent les ordres de l'OTAN, les exécutent, et le rôle du gouvernement allemand, du pouvoir politique là-dedans, à part pour le Bundestag de compter les soldats qui partent et de voter aux soldats prêts la dépense qui va être effectuée, c'est pile. Donc vous devriez avoir un centre de planification et de conduite des opérations, c'est comme ça qu'on en parle en langage militaire, comme on a en France ou en Angleterre, de façon à ce qu'il y ait cette fonction de transfert entre le politique, qui sait ce qu'on fait, font vos forces, et vos forces. Bon, les Allemands, ça a été long, puis ils ont dit oui, pourquoi pas, machin chose, et ils vont monter un truc à Potsdam. 15 jours après, on en parle aux Anglais, c'est du vécu, Vous êtes fendus, les Français. Les Allemands, c'est les rois de la planification, et vous leur recréez l'Oberkommando de la Wehrmacht à Potsdam. Et on dit, ouais, mais nous, il faut les mouiller. Il faut qu'ils puissent venir nous aider aussi. Il faut aussi qu'ils soient mouillés, et non pas qu'ils se retranchent derrière le général américain. Donc on est dans cette configuration, mais je pourrais citer un plein d'exemples, où je ne vois pas comment on peut faire l'Europe militaire avec les Allemands. En revanche, l'Europe, voilà, il faut qu'on reparte à 4 ou 5 et qu'on fasse une Europe avec... On n'a toujours pas d'espace judiciaire commun, on n'a pas d'espace fiscal commun, on n'a pas de trucs comme ça. Donc il y a plein de choses à faire qu'on peut faire avec les Allemands. Et tant qu'ils sont un petit peu en retrait des affaires militaires, qui sont pas dans leur culture actuellement. Mais les sages qui sont plus âgés disent que ça peut revenir. Et dernier point, quand je suis rentré chez ADS, là, le directeur des ressources humaines m'a demandé si je connaissais les Allemands. J'ai dit non, j'ai passé ma vie avec les porte-avions américains, anglais, je ne connais pas bien les Allemands, si ce n'est que je co-présidais le groupe franco-allemand de coopération militaire, donc c'était une discussion. Il m'a dit, écoute, c'est simple, regarde les CV. Ça peut intéresser. Les CV des ingénieurs de 50-60 ans, c'est la machine-outil, la pharmacie, la bagnole, etc. Le CV des ingénieurs de 30 ans, il marque l'industrie de défense. Aucun ingénieur, c'était il y a 10 ans, aucun ingénieur allemand du groupe EADS de plus de 50 ans n'avait marqué un quelconque passage dans l'industrie de défense. Alors j'ai dit, bon, t'en penses ce que t'en veux. Voilà. Après, on peut épiloguer. Mais on peut revenir sur le nucléaire aussi.
Bien, merci pour cette contribution. Je vous propose qu'on conclue sur le dernier thème là, qui est marqué sur la planche. Là. Donc tout ça, on a parlé des politiques de très haut niveau, des militaires de très haut niveau, des scientifiques de très haut niveau. Et là, nous sommes dans cette salle des citoyens de très bas niveau, mais des citoyens de base, qui apprennent des tas de choses. C'est, merci de nous avoir dit tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc, on est des privilégiés qui avons progressé dans notre connaissance. Mais ça c'est un dilemme terrible. Vous allez me dire, du temps de la guerre 14, le citoyen de base n'était pas plus informé, il n'avait pas plus d'influence sur les décisions politiques qu'aujourd'hui. Mais maintenant, on sent bien qu'au moins médiatiquement, il y a une certaine partie de la population qui a une exigence de peser ou d'influer sur les décisions politiques. Alors ça, comment ça peut se marier avec ce sujet qui est fortement complexe? Voilà. J'ai pas la réponse, hein. c'est juste une question. Hein.
S'il faut terminer là-dessus, ce qui n'est pas très, très facile, mais comme tu nous avais donné les papiers d'Oppenheimer, il y a le dernier paragraphe qui est intéressant, enfin le dernier que j'avais noté. Juste avant ça, d'ailleurs, il y avait une phrase très amusante. Ça va vous rappeler quand j'avais fait ma conférence sur l'énergie ici. Oppenheimer dit « Nous sommes 140 millions et il y a 2 milliards d'êtres humains sur Terre ». Et aujourd'hui, ils sont plus 140 millions, les Américains, ils sont 328. Et là, en ce mois d'avril, on n'est plus 2 milliards, mais on est 7 milliards 545 millions. Hein. Donc ça, c'était écrit il y a, comme tu as dit, 70 ans, quelque chose comme ça. Donc on voit quand même l'évolution. Et donc la fin, il disait, nous ne sommes pas seulement des savants, mais des hommes aussi. Nous ne pouvons oublier que nous dépendons de nos concitoyens. J'entends par là non seulement l'aspect matériel sans lequel aucune science ne serait possible et sans lequel nous ne pourrions pas travailler, mais également notre profonde dépendance morale, car la valeur de la science doit reposer dans le monde des hommes. Toutes nos racines s'y trouvent. Ce sont les liens les plus forts au monde, davantage même que ceux qui nous unissent les uns aux autres. Ce sont les plus profonds, ceux qui nous attachent à tous nos semblables. Voilà, je pense qu'effectivement, chacun d'entre nous peut
Non, mais ça, c'est top-down, c'est-à-dire c'est un scientifique de haut niveau qui dit il faut qu'on se préoccupe. Non, mais c'est très bien.
Il dit qu'il est concitoyen.
C'est très bien. Il est très.
Chacun d'entre nous peut dire la même chose, là.
Oui, non, mais j'évoque le problème inverse, c'est-à-dire le public de base, en disant oui, tout ça, ne serait-ce qu'un truc de grand public, de dire ben oui, on dépense tout cet argent. Il y a des politiques qui le disent ça, et on dépense tout cet argent pour la dissuasion, ça serait bien plus utile dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans je ne sais pas quoi, etc. Vous savez, ce type de raisonnement un petit peu à l'emporte-pièce, mais qui a un écho plus fort qu'il ne pouvait en avoir, dans la sensibilité, je dirais, de la population, il y a 20, 30, 40, 50, 70 ans. Donc aujourd'hui, tout le monde voudrait être interrogé sur tout et donner son avis sur tout. Donc c'est un sujet qui n'est pas facile sur cette thématique-là.
Hein. Oui.
Ah ben, bien sûr, je parle de la... Ben, bien sûr, la presse, c'est le...
Les citoyens ne connaissent la plupart des choses qu'à travers la presse.
Voilà, voilà. Ben oui, alors là, on ne veut pas faire le procès de la presse, parce que là, il faudra encore... On a déjà eu des débats
sur...
On a déjà eu des débats sur la presse, là, c'est... Bon. Mais voilà... on ne veut pas parler de Facebook. Si on commence comme ça, on ne s'en sortira pas. Hein, voilà. Oui, oui, oui. Vous voulez... Oui, 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 oui. Allez-y.
Pour parler des citoyens, on est dans un moment où le citoyen est surinformé, mais n'est pas renseigné. Il y a une grande différence entre l'information qui n'est pas triée, qui n'est pas évaluée, qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas confrontée. Et alors, c'est un fait. Maintenant, si je me mets de l'autre côté de la barrière, les dirigeants, ou même les petits dirigeants comme moi, c'est-à-dire tous les gens qui sont dans la sphère de ceux qui décident plus ou moins des choses, on a eu trop longtemps l'habitude de ne s'adresser qu'à aux élites, qu'aux dirigeants politiques, qu'aux décideurs, entre guillemets. Et on n'a pas pris conscience qu'il fallait s'adresser aussi à nos concitoyens, y compris ceux qui n'avaient pas autant de diplômes, etc., pour leur expliquer en termes simples comment les choses se passent. Moi, mon petit niveau, je le fais sans arrêt. Vous m'auriez demandé à 20 ans, est-ce que tu fais une conférence sur la dissuasion? J'aurais dit, mais attends, ils n'y comprennent rien, c'est pas la peine que je leur explique la dissuasion. Voilà. Je pense que, enfin moi je fais partie de ceux qui se disent, il faut que nos concitoyens soient informés, non pas par les journalistes de BFM, mais par des gens qui ont un avis, hein, qu'on peut discuter, mais qui ont un peu réfléchi à la situation. Voilà. On n'est pas en train de faire l'équipe de France de foot, hein, on est en train de parler de choses sérieuses, si je puis me permettre.
Ben, c'est très bien, moi je pense que c'est une excellente conclusion. François, tu veux dire quelque chose? Il y a assez long de fil là,
prends le fil. En complément et dans le droit fil de ce que dit l'amiral, un petit élément positif. Retour d'expérience de notre travail avec Jean-Marie. La première chose, c'est qu'on a été sollicité l'an dernier pour expliquer la dissuasion au regroupement pédagogique de La Margelle. La Margelle, c'est un village de 200 habitants en bas de Valduc. Et donc, le regroupement pédagogique, eh bien, la classe d'âge, c'est de 8 à 10 ans. Là, la barre était haute, hein, quand même, hein, parce que aller expliquer effectivement à des gens très informés, très intelligents, etc., on est entraîné, on le fait une fois par semaine depuis 30 ans, devant des gamins de 8 ans, la barre est très haute, parce que si vous commencez à prononcer un seul mot de langue de bois, c'est fini. Ils vous regardent comme ça, hein, et puis ils vous disent « cause toujours ». Et puis les questions qu'ils vous posent, elles sont directes, immédiates, sans détour, elles sont très fermées. Hein, c'est bien plus difficile qu'un exercice devant des journalistes où on fait des média training pour pouvoir s'en sortir avec pas trop de dommages. Bon, voilà. Moi, je constate simplement que ces 26 gamins, il a fallu, ils avaient préparé, sur Internet et tout, ils avaient préparé des questions. Il a fallu que l'institutrice, au bout d'un moment, arrête la séance des questions parce qu'ils en avaient 20, 30, 40. Ça, je trouve ça merveilleux, positif. Autre élément d'expérience qui est vraiment positif pour l'avenir, on recrute beaucoup. Et donc on va dans les établissements d'enseignement supérieur et puis on fait des conférences aux jeunes, on leur explique et tout. Il y a 20 ans, on était encore dans le syndrome du poste 68, le nucléaire militaire c'était le diable absolu, et c'est prononcer le mot dissuasion, on avait au mieux les tomates, voire des objets plus contondants. Aujourd'hui, quand on va dans ces amphis, c'est pas une difficulté, on commence par expliquer pourquoi on travaille. On leur explique pourquoi on fait une dissuasion et on leur explique que c'est d'abord non pas pour nous protéger nous, vu notre classe d'âge, notre vie elle est derrière nous, mais que c'est pour les protéger eux. Alors depuis le 13 novembre 2015, ben, en fait ça leur parle. Ils comprennent que le monde n'est pas fait de gens, qu'il n'y a pas que des gens qui nous aiment. Bon, donc là déjà ça se passe bien. Et puis après quand vous leur expliquez que dans ces métiers il y a un élément d'utilité, que c'est pour le bien public, etc., etc. Ben, un amphi qui est fait de gens qui viennent de tous les milieux socio-professionnels, et bien finalement, tout d'un coup, on entend les mouches voler, ils vous écoutent. La jeune génération, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ne sont plus du tout butés par les affaires antimilitaristes, antinucléaires, etc. Les seules personnes qui, de temps en temps, interviennent pour polluer le débat dans des conférences comme ça, c'est quand il y a une ou deux personnes de notre génération, et qui, eux, sont toujours sur des débats anciens, etc. Donc, pour moi, c'est un message d'espoir. Voilà.
Eh bien, merci. On va applaudir nos deux intervenants pour la qualité de leur contribution. Non, mais moi, je suis le modérateur, donc je n'ai pas à être applaudi. Hein. Donc, merci d'être venu, et puis... À une prochaine fois. Voilà. Merci.
Dans le pire, franchement, le pire, tu n'achèves pas. Alors, on a mal aux fesses. Là.
Non, mais il a pris pour elle.
T'as arrêté de... Non, mais... Je vais arrêter, je vais arrêter.